Radio Capi.
Oh, Capi.
À la présentation du journal, Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Des policiers et des détenus blessés, c'est le bilan d'une tentative d'évasion ce vendredi à la prison des hautes sécurités de Boulou à Likassi dans le Haut-Katanga. Plusieurs sources rapportent que le calme est revenu et la situation est sous contrôle. Une pluie torrentielle a causé des inondations et fait des dégâts matériels importants dans plusieurs localités de la province du Maniema. Le député national Stanislas Soleko, qui tire la sonnette d'alarme, demande une assistance urgente pour les sinistrés. Docteur Gisèle Kilomba, médecin directeur de la clinique Ma Famille de la ville de Béni, est notre invitée. Elle nous parle du travail des aides-soignants en marge de la journée leur dédiée chaque 26 novembre. Vous l'écouterez avant la fin de ce journal. Elle est notre invitée. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons d'abord ce journal par cette information. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, représente le président Félix Tshisekedi à la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui s'est tenue ce vendredi 27 novembre 2020 à Libreville au Gabon. Ce sommet a été consacré à la réforme institutionnelle de cette organisation pour la rendre plus dynamique, à l'instar d'autres organisations sous-régional. Plus de détails avec Enoch Matondo.
Session convoquée par le président en exercice Ali Bongo Ondimba du Gabon, cette réunion qui se tient en pleine crise de la pandémie Covid-19 consacrera le début de la deuxième phase de la réforme institutionnelle de la CEAC commencée en 2015. Notons que c'est au cours de cette 18e session ordinaire de la CEAC que l'actuel président en exercice Ali Bongo Ondimba passera le témoin à son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Signalons que ce sommet a été précédé d'une réunion des experts en visioconférence du 19 au 21 novembre 2020, puis de deux conseils de ministres, l'un en visioconférence le 24 novembre et l'autre en présentiel le 26 novembre à Libreville. Sont présents dans ce sommet Ali Bongo du Gabon, hôte de la session, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, le maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, Evariste Ndayishimiye du Burundi et João Lourenço d'Angola. La RDC est représentée par la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza.
Tentative d'évasion ce vendredi à la prison des hautes sécurités de Boulou à Likassi dans le Haut-Katanga. On compte des blessés aussi parmi les policiers qui sont dans le rang des détenus. Pour l'heure, la situation est calme et sous contrôle, rapportent plusieurs sources contactées. Le détail avec Jean Andou.
D'après nos sources, ce vendredi matin, les policiers ont ramené le bois de chauffage aux détenus pour la cuisson. Certains prisonniers, parmi lesquels les bandits des grands chemins, visiblement très bien préparés, en ont profité pour chercher à assommer le policier avec ce bois et lui ont ravi son arme. Puis, ils ont commencé à tirer volant ainsi s'évader. Ils en ont été empêchés par la police de garde. Dans les échanges des tirs, on compte des blessés de part et d'autre. Toujours d'après nos sources, le bilan serait des deux policiers blessés contre 6 dans les camps des détenus. Pour l'instant, la situation est sous contrôle et la sécurité a été renforcée par des éléments des FRDC. L'arme ravie a été aussi récupérée et les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs et autres instigateurs de cette tentative d'évasion. Interrogé, le maire de Likassi confirme l'information et promet de fournir d'ample détails lorsqu'il aura réuni tous les éléments. Notons que la prison des hautes sécurités de Boulou accueille des prisonniers en provenance de plusieurs horizons. Il y a quelques semaines, à la suite du soulèvement des prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi, certains d'entre eux, dont le plus dangereux, avaient été transférés à Boulou à Likassi pour y purger leur peine. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Rendons-nous dans la province du Kwilu où deux personnes, dont un militaire et un présumé journaliste, ont été arrêtés dans la nuit du mercredi 25 novembre 2020 à Kikwit pour tentative d'enlèvement du maire adjoint de cette ville, Jean-Claude Mongala. Ces personnes sont actuellement en détention à l'auditorat militaire de la ville de Kikwit, selon la confirmation du major Joseph Kasongo, porte-parole des FARDC au Kwilu. Le maire adjoint de Kikwit qui dénonce le fait ce vendredi d'y avoir reçu bien avant des appels inconnus l'invitant à la prudence. Il affirme qu'il est en insécurité, lui et tous les membres de sa famille, raison pour laquelle il prend à témoin l'opinion nationale ainsi que la MONUSCO sur tout ce qui pourrait lui arriver après. On écoute les propos de Jean-Claude Mongala, maire adjoint de la ville de Kikwit. Il est joint par Irène Boma.
Depuis quelques jours, j'ai reçu quelques appels m'invitant à la prudence. Avant-hier, deux personnes se sont présentées un peu dans la nuit devant ma porte. Ils ont trouvé mon garde du corps. Se sont présentés comme deux colonels qui sont venus de Kinshasa, qui travaillent à la présidence de la République. Et ils sont de l'état-major des renseignements militaires. Et ils étaient à Kikwit dans une mission secrète du cabinet du chef de l'État. Quand les gardes du corps les ont annoncés, je n'ai pas trouvé prudent de les recevoir. Mais ils ont proféré des menaces à mon garde du corps. Et finalement, comme la situation semblait dégénérer, j'ai alerté les services de sécurité. On a fait la filature et finalement, ils sont tombés dans les filets. On les a traduits à l'auditorat. Quand on est tombé sur eux, un, il semble, c'est un journaliste. L'autre est là, effectivement, est militaire. Après beaucoup de questions qu'on leur a posées, il s'est avéré qu'ils sont venus dans une mission qui consistait soit à m'enlever, soit à m'abattre. Voilà pourquoi j'ai trouvé important de prendre en témoin l'opinion nationale et aussi la MONUSCO sur tout ce qui peut m'arriver après. Parce que, et moi-même, et ma famille, nous sommes en insécurité.
Dans la province de la Tchopo, les victimes des guerres de la ville de Kisangani ont manifesté brillamment hier jeudi devant le bureau du PNUD afin de faire entendre leur voix auprès des autorités nationales, notamment auprès du ministre des droits humains. Affrontement sanglant entre auprès du ministre des droits humains. Rappelons qu'ils sont victimes des affrontements sanglants entre les armées rwandaises et ougandaises ayant endeuillé la ville de Kisangani dans les années 2000. Cette manifestation intervient après avoir suivi sur les ondes de Radio Kapi que le ministre des droits humains a remis à chaque membre de la délégation de leur association se trouvant à Kinshasa un montant d'environ 3 000 $ américains au lieu que cette distribution se fasse sur place à Kisangani. Leur porte-parole Willy Mwini Kondo explique au micro de Jacques Moukongolé.
Nous, les membres des victimes de guerre Kisangani, nous ne sommes pas contents de ce que le ministre a fait parce que le ministre était sur place à Kisangani. Nous lui avons montré que l'équipe qui est à Kinshasa, ils ne sont pas une équipe qui est valide pour le moment. Tout le monde là, ce sont des déserteurs. Il y avait une nouvelle équipe et on lui avait présenté cette équipe qui est en exercice. Mais ce que nous apprenons à Kinshasa, c'est que le ministre a récupéré la même équipe qu'on avait rejetée à Kisangani et il est parvenu même à donner l'argent à ces gens-là. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui le membre des victimes de guerre, ils sont acharnés, sont énergés pour présenter notre mécontentement envers le Kapi qui est lui-même, le monsieur, il est passé pour aller faire sa déclaration. Ce que nous réclamons auprès du ministre, nous les victimes de guerre de Kisangani, de nous amener d'urgence l'argent qu'il avait donné à ces gens-là, qui sont à Kinshasa, les 3 000 $ qu'il a donné là-bas, c'est ce que nous tous, les membres de Kisangani, nous entendons le même montant qu'il a donné à Kinshasa pour les membres qui sont à Kisangani.
À Boutembo, aucune victime de violences sexuelles n'a été indemnisée après le procès au cours de cette année. L'ONG Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme et de l'Enfant, qui tire la sonnette d'alarme, plaide pour la mise en place par le gouvernement d'un fonds d'indemnisation des victimes de violences sexuelles dont les auteurs sont indigents. Florida Carambou pour les détails.
C'est dans un point de presse organisé ce vendredi par les bureaux urbains du genre Famille et Enfants que Maître Lydie Kake de l'ONG Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme et de l'Enfant a fait cette révélation.
De janvier à octobre 2020, nous avons gagné au moins 10 procès. Il a été constaté que les agresseurs sont dans la situation de vulnérabilité. Ils ne sont même pas en mesure d'indemniser les victimes. C'est pour cela que nous sommes en train de faire des plaidoyers pour que l'État puisse se charger pour un fonds d'indemnisation des victimes de violences sexuelles.
Dans la même veine, Rose Tombeane, directrice du collectif des femmes journalistes, explique que plusieurs mythes sont créés autour de la question des violences sexuelles par la communauté.
Il y en a les gens qui pensent que les organisations féminines exploitent la question pour se créer de l'emploi. Ce sont des femmes qui veulent révolter nos épouses. Il y en a qui pensent que c'est une question des blancs, donc importés. Donc il y a beaucoup de mythes et par conséquent, il n'y a pas d'engagement.
D'après les derniers rapports du bureau urbain, genre, famille et enfants, plus de 50% des cas de viol sont commis par des civils. Boutembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Comme je le disais dans le titre, dans la province du Maniema, dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier, une pluie torrentielle a causé des grandes inondations et entraîné des dégâts matériels importants dans la commune de Lubutu. C'est particulièrement sur l'axe routier Lubutu-Alikale, au niveau du pont Kalibatete, du pont Lubilinga, sur l'axe routier Lubutu-Punia, au niveau du pont Alouza, ainsi que sur l'axe routier Lubutu-Maiko, au niveau du bloc Matamba, dans le quartier Kalibatete. Le député national Stanislas Oleko qui tire la sonnette d'alarme demande une assistance urgente pour les sinistrés, tant des autorités nationales et provinciales que des personnes de bonne volonté. On l'écoute au micro d'Alain Irung.
Pour l'heure, les bilans provisoires fait état 1 d'enclavement de quartiers composant la commune de Lubutu, dont les habitants restent bloqués sans la moindre possibilité d'accéder aux quartiers voisins. 2. Les ponts Lubilinga, quasi engloutis par les eaux à hauteur de plus ou moins 2 mètres, courent le risque d'être emportés par ces mêmes eaux d'inondation. 3. Nous pouvons dire que d'innombrables habitations, tant en pisé, en semi-durable qu'en matériaux durables, sont détruites, entraînant ainsi un nombre important de sans-abri. 4. La circulation étant coupée, les élèves ne savent plus aller à l'école, le marché central n'est plus alimenté en vivres de première nécessité, d'où la hausse des prix de certains produits agricoles tels que la feuille de manioc, l'huile de palme, le manioc, l'arachide. 5. Enfin, le risque de connaître des cas de maladie hydrique.
19h10 au Kasaï Central, où près de 58 000 élèves ont repris le chemin de l'école depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Le directeur de la province éducationnelle Kasaï Central 1 a livré ces chiffres ce jeudi dans un entretien exclusif accordé à Radio Kapi. Il attribue ses retours à la reconstruction d'une cinquantaine d'écoles sur environ 550 détruites lors de la crise des Kamouina-Sapou. À l'occasion, Léon Tosusué exhorte les communautés à la protection des infrastructures scolaires en province. Il est dit au micro de Blaise Ndongala.
Le gouvernement congolais a mené un plaidoyer qui nous a aidé à obtenir de Issaïd Diffit et les autres partenaires la construction d'environ 117 écoles, dont 57 avec les fonds de l'Issaïd et Diffit. Avec ces interventions-là, nous avons réussi à remettre à l'école environ 57 900 enfants parmi les 483 000 qui avaient perdu leur scolarité. Jusqu'à ce jour, les écoles construite représente à peine 12%. C'est encore faible. La demande ne fait que s'accroître, surtout avec la gratuité de l'enseignement. Alors, j'attire l'attention de la communauté kassaïenne. En une année, nous avons détruit environ 550 écoles. Il n'est plus question de revenir sur des milices, sur la destruction des peu d'infrastructures que nous avons, parce que la reconstruction nous coûte énormément cher.
Parlons encore de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. À Gbadolité, dans les Nord-Oubangui, la campagne a été lancée mercredi dernier dans le contexte de la COVID-19 qui compte déjà 37 cas confirmés. Cependant, la campagne va multiplier la mobilité des activistes ainsi que de rassemblements des couches sociales. Voilà pourquoi l'UNICEF a procédé à la distribution d'un deuxième lot de 11 300 masques, l'eau qui a été remise aux autorités provinciales par Dr Marthe Idumbo, administratrice santé à l'antenne de l'UNICEF Nord-Équateur. Ces propos sont recueillis par Paul Richard Malengela.
En ce jour commémoratif des 16 jours d'activisme, journée célébrée dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en République démocratique du Congo, au nom du chef de bureau UNICEF Mbandaka, nous saisissons l'opportunité afin de remettre à l'autorité provinciale un deuxième lot de masques fabriqués localement, soit 11 300, faisant au total 23 800 masques pour la province du Nord-Oubangui. Alors que la République démocratique du Congo enregistre un total de plus de 12 000 cas et plus de 300 décès, la province du Nord-Oubangui a un total de 37 cas. Cette dotation du partenaire UNICEF vient renforcer tout autre et va ainsi contribuer à améliorer la lutte contre la pandémie à COVID-19, à l'instar des autres mesures, à savoir lavage correct de mains, distanciation sociale, tousser au niveau du pli du coude, etc. UNICEF saisit ainsi cette occasion pour informer de la même dotation faite dans les autres provinces du Nord-Équateur, à savoir 25 000 masques pour le Sud-Oubangui, 10 400 masques à la Mongala.
Actualité internationale.
Avec 57,87% de voix selon les résultats provisoires, le président ROC Marc Christian Kabore s'est imposé dès le premier tour de la présidentielle au Burkina Faso. Il a réussi son fameux coup KO et repart pour un second mandat. Eddy Komboïko du CDP, l'ancien parti au pouvoir, se place en deuxième position avec 15,48% des suffrages. Et Zéphirin Diabré, l'actuel chef de file de l'opposition, arrive qui est troisième avec un peu plus de 12% de voix. Dès l'annonce de sa victoire, le président Kabore a promis une concertation
occupation permanente et qu'il serait le président de tous les Burkinabés sans exception. Même si l'opposition, dans une posture républicaine, a choisi de prendre acte des résultats provisoires ces derniers jours, le climat politique s'est brusquement tendu au Burkina Faso. L'opposition a dénoncé les fraudes et les insuffisances de nature, selon elle, à entacher la sincérité du scrutin qui a vu le président sortant, Roque Marc Christian Kabore, être réélu de le premier tour.
L'invité.
Ce 26 novembre, c'est la journée internationale des aides-soignants. Comment ces suppléants de médecins vivent dans leur milieu professionnel? Quelles difficultés font-ils face et comment y remédier? Ces questions ont été posées au docteur Gisèle Kilomba, médecin directeur de la clinique Ma Famille de la ville de Béni. Elle répond aux questions de Marc Marofimbo.
Docteur Gisèle, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
C'est la journée internationale des aides-soignants. Vous avez aussi ces aides-soignants chez vous. Comment vous appréciez votre vie avec les aides-soignants sur le plan professionnel?
Sur le plan professionnel, les aides-soignants sont indispensables pour bien mener les soins. Parce que sans eux, la continuité des soins ne peut pas être assurée. Par aides-soignants, je vois des entités. Il y a les services de nursing et les services de l'hygiène. Donc, cette équipe-là, c'est la cheville même de l'accomplissement de tous les soins.
Docteur Gisèle, quelles sont, par exemple, les difficultés auxquelles les aides-soignants font face?
Les aides-soignants font face à plusieurs difficultés. D'abord, du point de vue organisation et le poids du travail. Je vais prendre seulement l'exemple de la vie au quotidien de la clinique, des soins dans un hôpital. Les aides-soignants, ils ont leur organisation. Il y a un directeur de nursing qui est là, qui doit programmer un horaire, et puis l'horaire là doit s'adapter. Maintenant, il y a des difficultés, des fois, entre eux, il y a un qui ne va pas respecter l'heure, il handicape le temps de l'autre. Tout cela pourquoi, quand vous analysez à fond et vous leur posez des questions, ils vont seulement dire que c'est la rémunération. Je ne peux pas passer tout mon temps à un seul endroit alors que j'ai des responsabilités. Mais nous, comme médecins, nous leur disons que être aide-soignant, c'est une vocation. Et sa vocation, on doit l'accomplir malgré les contraintes.
Et vous pensez, comment est-ce qu'on peut améliorer alors, dans ces cas, la situation professionnelle des aides-soignants?
Améliorer la situation professionnelle des aides-soignants, d'abord, c'est là la question de l'État. Parce que nous avons remarqué que dans nos milieux, les hôpitaux publics ne sont pas nombreux. Les hôpitaux publics qui existaient, c'était construit à l'égard du nombre de la population de l'époque. Si je prends par exemple l'exemple du centre de santé Mabakanga. Ce centre de santé Mabakanga a été construit quand Beni n'avait que peut-être 30 000 habitants. Mais ce même centre continue à recevoir les malades. Alors que la ville aujourd'hui a plus de 600 000 habitants, si vraiment j'ai de bonnes statistiques, l'aide-soignant, il est habité à plusieurs difficultés. L'hôpital, la population a augmenté, les besoins ont augmenté, mais l'État n'a pas construit d'autres infrastructures. Maintenant, la santé dans le secteur privé, il faut maintenant que l'État commence à songer à promouvoir les structures privées, à appuyer, parce que les privés ont vu que l'État est débordé, les structures sanitaires de l'État est débordée, ils donnent quand même de bonnes initiatives. Mais, au lieu maintenant que l'État puisse les accompagner, c'est l'État maintenant qui rançonne avec beaucoup de taxes. Je ne dis pas qu'il ne peut pas prélever des taxes, mais il faut voir comment on multiplie le nombre de taxes. Ce qui fait que les privés peuvent avoir l'intention de payer convenablement son personnel et des soignants, mais vu les exigences qu'il a envers l'État, le salaire n'est pas vraiment conséquent au travail que nous faisons. Comme je l'ai dit, messieurs les journalistes, c'est la vocation, c'est cette vocation-là qui pousse à ce que les aides-soignants, infirmiers, hygiénistes, demeurent à leur travail parce que c'est son frère congolais, c'est son compatriote qui est en danger. C'est un peu ça.
Docteur Gisèle, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.